Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Julien Pierre, le CEO de Fair for the Planet, qui est un label qui récompense, entre guillemets, ou labellise, c'est peut-être plus français, les acteurs du sport, donc ce soit clubs, événements, etc., qui sont engagés pour la protection de la planète. C'est bien ça?
C'est exactement ça, Alice. Parfaitement résumé.
Bon, j'aimerais quand même qu'on revienne sur tous tes engagements, parce que si tu es là aujourd'hui, CEO de ce label, c'est que bah, y a le sport, mais il y a aussi le côté environnemental. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton background, comme j'aime ce terme atroce, cet anglicisme horrible?
Oui, moi, tout d'abord, j'ai fait 17 ans de rugby professionnel. J'ai arrêté ma carrière il y a maintenant 3 ans. Avant ça, background, comme t'aimes l'appeler, j'ai eu la chance de grandir dans un parc animalier que mon grand-père avait créé dans les années 60, au Sable-d'Olonne, à Doulafontaine et au Sable-d'Olonne, il y avait deux parcs. Et j'ai grandi dans cet univers de parc animalier, alors qui est souvent décrié pour la protection de l'environnement, pour les espèces en captivité. Mais aussi dans un univers où justement ma famille s'est servie des parcs animaliers comme un moyen de sensibilisation, de protection des espèces menacées à travers le monde. Et donc j'ai été sensibilisé très tôt. Quand on est un enfant et qu'on grandit dans cet univers-là.
Et donc c'est forcément pour ça que tu as toujours été plus ou moins engagé, ou est-ce qu'après, avec ta carrière de sportif, tu as un peu mis ça de côté?
Moi, j'ai mis ça un petit peu de côté forcément. J'ai priorisé ma carrière. Mais j'ai eu un déclic durant ma carrière. En 2009, je suis parti avec mon oncle, justement, à Sumatra, donc une île d'Indonésie, au-dessus de Jakarta. Et on a, pendant 15 jours, 3 semaines, suivi une association qui protège le tigre de Sumatra. Donc on était en pleine forêt primaire. J'ai vu des paysages que je n'avais jamais vus, des moments que je n'avais jamais vécu en pleine forêt. Alors on n'a pas forcément vu beaucoup d'animaux, mais c'est pas très grave. Au contraire, c'est des animaux sauvages, donc qui restent loin de l'homme, tant mieux. Mais j'ai vu aussi une nature dévastée, de la forêt brûlée. Alors comme on voit de plus en plus actuellement aux infos, hein, de la forêt qui brûle, malheureusement, le dérèglement climatique est là. Mais là, c'était de la main de l'homme. On brûle la forêt pour l'exploiter, pour des champs, ce qui est compréhensible. On l'exploite pour le papier, plein de choses. Mais j'ai vu la mangrove rasée au bulldozer. Quand on connaît cet écosystème qui est extrêmement complexe, le temps que ça remet à pousser et à régénérer toute cette biodiversité, cette richesse, on dit que c'est malheureux. Du coup, quand je suis rentré, j'ai ramené j'étais malheureusement malade avec le palu. J'ai surtout ramené des convictions que je devais m'engager, que je devais prendre un virage, que je devais faire quelque chose. Ça a mis quelques années, mais voilà, ça a mûri petit à petit. Ouais.
Et t'es allé plus loin, puisque là, aujourd'hui, maintenant, t'es carrément CEO d'un label, un nouveau label. Est-ce que donc tu peux me parler de Fair for the Planet?
Ouais, j'avais cette carrière de rugbyman, j'avais cet engagement avec la passerelle depuis longtemps. Et quand j'ai arrêté ma carrière, donc en mai 2018, j'ai repris mes études parce que bon, au rugby, on prend quelques pètes, j'ai besoin de tout remettre en ordre. Non, mais j'avais besoin de reprendre les études pour mettre au niveau. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais quitté les études, même si j'avais fait quelques formations.
Et t'avais fait des études de
quoi? J'avais fait un BTS, mais c'était
et là, quand
il y a
t'as
longtemps. J'ai fait un master à Toulouse Business School. Chef d'entreprise, entre guillemets. Et mon mémoire, c'était la création d'un label vert pour les clubs et événements sportifs.
Donc, j'avais déjà l'idée.
J'avais l'idée, ouais, j'avais l'idée. En...
Il n'y en avait aucun qui existait.
Ben, voilà, moi, j'avais l'idée. Pendant 2 ans, j'étais à la section Palois, j'étais directeur du développement et de la formation. En charge, et pas en, aussi, parce que je l'avais demandé, en charge de la partie éco-responsabilité. Et ben, pendant ces 2 ans, pendant cette année de formation, j'ai fait faire des benchmarks à des étudiants sur tout ce qui se faisait en termes de...
T'as fait faire, t'as délégué.
j'ai délégué, non, mais voilà, j'avais pas mal de boulot. À des étudiants, des benchmarks sur tout ce qui se faisait en termes d'éco-responsabilité dans le monde du sport, à travers le monde. J'ai fait travailler des étudiants sur un référentiel qui pourrait s'adapter au monde du sport. Alors, c'est des étudiants qui étaient dans des formations de tourisme, économie sociale et solidaire, donc il n'y avait absolument rien à voir avec le monde du sport et encore moins du monde professionnel. Donc, ce qui était intéressant, justement, c'est que ben, ils avaient cette a priori du monde du sport, cette vision, et par contre, ils avaient une vraie connaissance du tourisme, dans les placements de spectateurs, hein, quelque part, c'est un peu la même chose. Et ben, ça a permis de pas mal challenger, pas mal d'idées qu'on n'avait pas forcément vues au départ. Et puis voilà, pendant 2 ans, ben, on a bossé, on s'est pas mal entouré de pas mal de monde. Et puis voilà, on s'est lancé au mois de novembre dernier. Et
aujourd'hui, vous êtes combien?
Alors aujourd'hui, on est 6 associés. On a un comité d'éthique avec nous. On a l'ADEME comme partenaire.
Beau partenaire.
L'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Mmh. On a aussi un pôle d'experts avec qui on travaille, sur qui on s'appuie. Alors, des gens de la RSE au sens large, des gens qui sont vraiment très spécialisés dans la biodiversité, justement, ou la gestion des sols, les pelouses notamment sportives, des personnes qui sont dans le front industriel aussi également, parce que toute la partie énergie est importante.
C'est un label qui est évolutif aussi ou pas, qui va s'adapter, puisque je pense que les enjeux ne seront pas toujours les mêmes.
Bien sûr, alors c'est un label qui va s'adapter. Nous, comme je disais, on a travaillé avec l'ADEME pour identifier les caractéristiques environnementales de notre référentiel, qui se veut avant tout un outil structurant de la démarche éco-responsable.
C'est pour encourager en fait les acteurs à faire mieux.
Pour encourager, et comme je disais, moi j'ai fait un benchmark de tout ce qui se faisait. J'ai vu des chartes, j'ai vu des labels dans certaines fédérations, dans certains pays, mais pas d'outils universels qui existaient. Je voulais parler au club pro comme au club amateur. Donc, il fallait balayer un peu très, très large, évidemment. Donc,
justement, pas de coût, parce que parfois, obtenir des labels, c'est des coûts, un peu quand même.
Si, il y a un coût, parce qu'on rentre dans une démarche de progrès. Donc, on a ce référentiel de 18 thèmes et plus de 300 questions qui balayent toutes les activités. Des activités du club, pardon. On va de l'alimentation, la gestion des sols, la gestion numérique, les bâtiments, les fluides, eau, électricité.
Finalement, c'est aussi un outil pour eux, pour mettre un curseur et savoir où s'améliorer. Donc, c'est un investissement.
C'est un investissement et c'est aussi rentrer dans une démarche de progrès. Et nous, c'est les accompagner au changement parce qu'on a tous des habitudes, parce qu'on a une manière de fonctionner déjà en tant qu'individu, que le changement en tant qu'individu n'est déjà pas forcément évident. En tant qu'individu, de changer de comportement de 60-70%, ça se fait pas un claquement de doigts, c'est pas vrai. Alors, un club comme certains gros clubs, c'est encore plus difficile. Mais c'est vraiment instaurer ses habitudes petit à petit, les ancrer dans le quotidien et réduire l'impact environnemental, la technique des petits pas, la technique du colibri.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression justement que dans le sport, il y a de plus en plus de sportifs qui s'engagent, qui prennent conscience et qui vraiment agissent? Ou est-ce que tu trouves que pour le moment, c'est encore assez loin de tout ça?
Alors, jusqu'à maintenant, le monde du sport et les sportifs, les clubs de sport sont des acteurs, pour moi, des acteurs sociaux par définition. Un club amateur au fin fond de n'importe quel département, le mercredi après-midi, qui donne un goûter à ses gamins, qui forme des bénévoles, le dimanche. Il a un rôle social extrêmement important. Un club international qui va tous les jours, toutes les semaines réunir des milliers de supporters, qui va faire travailler.
Le côté social, je suis entièrement d'accord. Le côté environnemental.
Le côté environnemental est extrêmement difficile à aborder. Parce que notre partenaire, il n'est pas engagé, parce que notre collectivité ne nous demande pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous demandait pas vraiment. On le faisait, on signait une charte, on faisait ceci, on mettait des gobelets en plastique, et puis c'était bon. Mais on n'allait pas plus loin, en fait. Enfin, on supprimait les gobelets en plastique, pardon.
On
supprimait les gobelets en plastique.
Et puis, comme une bouteille d'eau en plastique.
Mais en fait, on n'allait pas plus loin. On comprenait pas que le sport, par contre, peut être un véritable accélérateur de cette transition écologique.
Et un ambassadeur. Quand on voit le Tour de France qui s'engage pour plus jeter les bouteilles, etc. Enfin, en fait, Du coup, forcément, ceux qui regardent et les téléspectateurs, souvent, qui suivent les sportifs de niveau, d'ailleurs, on le voit quand on regarde l'engagement sur les réseaux sociaux, ils les suivent activement, ils les inspirent, ils les idolâtrent, etc., puisque leurs idoles font concrètement des choses. Et je pense que les sportifs sont des super ambassadeurs pour ces sujets-là. Tu penses aussi ?
Bien sûr, j'en suis persuadé. Les sportifs sont des super ambassadeurs. Il y a de plus en plus de sportifs, pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a de plus en plus de sportifs qui s'engagent. Avec nous, notamment, on a des sportifs comme Nicolas Karabatic qui sont engagés, Léné Corson, Paul-Henri Mathieu, Cécilia Berdé qui sont au JO.
Paul-Henri Mathieu qui va lancer sa marque, d'ailleurs, je crois bien.
C'est ça. Arnaud Assoumani qui sont engagés avec nous. Enfin, voilà, on a aussi quelques sportifs qui sont engagés avec nous.
En même temps, quand tu fais du sport, souvent, tu es quand même très, très sensible à l'environnement. Tu
oui, mais en... ouais, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais jusqu'à maintenant, c'est difficile à aborder. Parce que.
Il y a des voyages aussi, pas mal. Il y a des voyages. Et puis,
certains sportifs, alors Nico Karabatic, par exemple, si on prend cet exemple, et j'en ai déjà parlé avec lui, lui peut aujourd'hui refuser des partenaires parce qu'ils ne sont pas engagés.
Ouais,
parce que dans la transition, lui, il peut se le permettre.
Je comprends tout à fait, mais tout le monde
très
peut
peu,
pas.
Très peu le peuvent en fait.
Ça dépend des sports, encore une fois.
Et ça dépend des sports, voilà. Donc,
comme je parlais à Manu Cornu, qui est champion de France d'escalade, il a même pas de sponsor. Donc, c'est quand même complètement fou. Donc, même au sein même des sports, il y a des. C'est compliqué, je pense, tout ça. D'ailleurs, même pour le label, le coût est le même pour chaque. Fédération, tu dois l'adapter.
On a un coût fixe minimum coût fixe. Parce que voilà, on a ce référentiel qu'on envoie au club. Après, nous, on vient faire un audit sur place pour vérifier le déclaratif, pour comprendre l'écosystème du club, pour rencontrer les partenaires, les collectivités, si jamais elles ont été intégrées dans la démarche. Et derrière, nous, c'est un rapport avec des recommandations, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment véritablement ancrer les clubs et les événements dans une démarche de progrès et les accompagner dans ce changement. Donc voilà, c'est des recommandations et un suivi pour les clubs. Donc les coûts sont différents. Évidemment, si les structures sont plus grosses, mais on a un coût fixe au départ.
Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui écoutent l'empreinte. Donc, par exemple, ils peuvent recommander à leur fédération ou à leur club de venir vous voir quand c'est comme ça.
Bien sûr, avec grand plaisir. On a déjà des grands clubs qui nous ont rejoints. Donc, la section paloise qui nous a rejoints.
Forcément, ton club de cœur.
C'était un engagement.
Puis ils sont un peu verts, hein, question logo et tout, la totale.
C'était un engagement aussi de ma part, les engager dans cette démarche. On a des clubs amateurs comme un club des Sables d'Olonne, de football, le TVEC 85 qui nous a rejoints très vite, l'Olympique Marquois Rugby, un club de rugby de Fédéral 1. Mais on a eu la chance d'avoir l'Olympique Lyonnais qui nous a rejoints. En fait, qui a été le troisième club à nous rejoindre au mois de décembre dernier en disant « Julien, on croit en ton label, en ton projet ». On a depuis peu le club pionnier français, le Havre, Athletic Football Club, qui nous a rejoint également, et d'autres clubs, la Ligue nationale de rugby. Enfin, voilà.
J'entends beaucoup de rugby et de foot. Il faudrait qu'on aille un peu. Ça veut dire appel aux autres. Il y a plein d'autres sports, on vous attend.
Pour l'instant,
club de pétanque, allez hop.
Pour l'instant.
C'est là où il y a quand même aussi beaucoup de choses à faire et puis il y a quand même plus d'argent aussi dans ces sports-là.
Oui, mais après, j'ai aussi cet ADN du rugby, donc forcément, et l'Olympique Lyonnais, derrière, par contre, a été un formidable moteur dans le monde du sport, du foot, pardon. On discute avec énormément de sports. Oui, du rugby, oui, du foot, et évidemment, et beaucoup de clubs, des ligues, des fédérations.
Puis mais le label va s'adapter à chaque sport.
Exactement,
forcément.
On va rentrer, nous aussi, dans une démarche de progrès, parce que nous aussi, on a besoin d'avancer, on est tout jeune. Mais on discute avec des clubs de basket, de hand, d'escrime, de natation.
Curling?
Pas encore.
Bobsleigh.
Pas encore. Ok, sur glace, oui.
Je vais t'amener quelqu'un aussi, un acteur du bobsleigh qui nous écoute, qui vient de voir Julien.
D'accord.
Non, mais je trouve ça génial. En plus, t'es aux prémices, mais finalement, c'est pas que t'es tout seul sur le secteur, mais j'entends pas beaucoup de labels comme ça aussi vastes, qui englobent tous les sports, quoi. En tout cas, français.
Français, ouais, non, il y a pas encore véritablement d'acteurs qui sont manifestés. Il y a certainement beaucoup qui travaillent sur le sujet. On a eu la chance d'embarquer déjà du beau monde avec nous, des clubs extrêmement prestigieux avec nous. On va encore travailler dur. On est au début, encore une fois. Donc, on va encore s'améliorer et puis embarquer le plus de monde avec nous parce que vraiment, l'idée, c'est d'utiliser le sport comme un moyen pour diffuser, pour réduire l'empreinte environnementale de tout le monde, parce qu'une fois qu'on est dans un club de sport, on parle à des, tu l'as dit tout à l'heure, à des supporters, à des jeunes, à des licenciés, à des bénévoles,
même à des plus âgés.
À des dirigeants.
Souvent, c'est ceux-là qu'on a du mal à avoir, parce que les jeunes, ils sont plus convaincus, hein, puisque c'est eux qui se récoltent la planète qui va pas terrible.
Oui, oui, les jeunes sont plus convaincus, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on discute aussi avec des partenaires, les prestataires des clubs. Si demain, les clubs demandent à leurs prestataires de rentrer eux aussi dans une démarche environnementale, ben, on va diffuser plus large, parce qu'on discute aussi avec les collectivités à travers le club. Donc, le message se diffuse très largement et un message positif. C'est aussi ça, parce que on a trop dit pendant trop longtemps, ce que vous faites, c'est pas bien. Moi, je dis pas que les clubs qui travaillent avec nous font tout bien. Non. Par contre, ils s'engagent avec nous dans une démarche de progrès. Et demain, ils vont faire mieux. Et on va les accompagner à ce changement pour que demain, ils fassent mieux, pour que demain, on réduise l'empreinte environnementale qui sensibilise un maximum de monde.
Je suis entièrement d'accord avec cette philosophie. Le fait d'encourager, même si c'est peu au début, qu'on ne fait pas grand-chose, vaut mieux ça plutôt que tout laisser tomber et se dire, bon, bah, de toute façon, au point où on en est, voilà, on est... Non, au contraire, et je trouve que c'est génial. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs?
Un mot de la fin pour nos auditeurs, pour tes auditeurs.
En même temps, tu avais une belle phrase. Déjà, j'allais dire peut-être que c'était la belle phrase de la fin, mais en même temps, si tu veux ajouter quelque chose.
Je pense que c'est important d'agir tous.
À son échelle.
À son échelle. On sait qu'aujourd'hui, les comportements individuels représentent à peu près 30% des gaz à effet de serre au niveau monde. Ben, si tout déjà, on est capable de faire ça, mais on va entraîner forcément derrière les multinationales, les entreprises et tout le monde avec. Donc, je pense qu'il est grand temps, quand on voit les infos aujourd'hui, tout qui brûle à droite, à gauche, les inondations. Enfin, voilà, on est certainement au début. Alors, je suis pas un scientifique ni un spécialiste du climat, mais quand je lis les articles, moi, ça commence à me faire peur. J'ai une petite fille, j'ai pas envie qu'elle grandisse dans ce monde-là. Donc, je vais faire l'effort et j'ai envie qu'un maximum de monde fasse l'effort là-dessus.
Merci Julien.
Merci Alice.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez me recommander des profils aussi inspirants que Julien. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.